Fréville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Alors, cette musique annonce l'arrivée de Christian Page. Bonjour, Christian.
Salut, Louis.
Alors, en 2019, on va continuer, n'est-ce pas, avec les mythes et complots,
comme on
le fait depuis quelques années.
Oui, j'en profite pour te souhaiter une très bonne année 2019.
Ben, à toi aussi.
Et il y aura sûrement de très bonnes histoires
ben,
en
écoute,
2019.
Tout à fait. Faut pas oublier que Donald Trump est encore là.
Oui, absolument.
Alors, une mine intarissable, n'est-ce pas, d'histoires bizarres.
Oui, voilà. Bon, un terreau fertile.
Oui, un terreau fertile. Tout à fait. Alors, une étude qui pourrait d'abord bouleverser les livres d'histoire comme premier sujet. Qu'est-ce
voilà.
que c'est?
Et c'est une question qui regarde, en fait, le berceau de l'humanité. On se divise beaucoup dans les milieux de l'anthropologie. Tout ça nous semble un peu éloigné parce que, bon, on est préoccupé par le quotidien, mais c'est vrai que dans les livres d'anthropologie, de paléontologie, on se questionne souvent où l'humanité est-elle apparue en premier. On sait que les premiers hommes, les premiers hominidés sont apparus en Afrique, mais quel a été l'ancêtre des primates qui a donné éventuellement naissance à l'homme? Et la plupart des scientifiques étaient d'accord que l'animal qui est à l'origine des primates est un petit mammifère qui a à peu près la taille d'une souris avec une très longue queue et des mains plus ou moins articulées, qu'on appelle le Teilhardina. Le Teilhardina. Donc, cet animal, on en avait surtout trouvé des restes. On parle ici d'un animal qui vivait il y a à peu près 50 millions d'années. Ça fait quand même un petit bout. On en avait surtout trouvé dans la région de l'Asie et en particulier dans la région de l'Est de la Chine. Alors, on avait toujours cru que cet animal était à l'origine, qui est reconnu sur le plan paléontologique comme étant l'ancêtre des primates. On croyait donc que c'était le foyer où était né, en fait, ce qui avait donné un peu naissance au berceau de l'humanité. Et voilà que des chercheurs... Je ne sais pas si c'est un lien avec Donald Trump, mais enfin, bref, des chercheurs américains ont trouvé un reste fossile. Bon, il y a quand même quelques années, ils ont trouvé un reste fossile quelque part dans les plaines du Wyoming. On sait que c'est une région qui est très fertile en fossiles de tout genre. Ouais. Et ils ont trouvé un morceau de mâchoire. C'est tout un peu étonnant comment on voit la paléontologie ou l'anthropologie spéculer souvent à partir d'une dent ou d'un petit morceau d'os, là. Mais donc, à partir de ce morceau de mâchoire, ils ont analysé ça et ils arrivent à la conclusion que c'est un fossile qui date d'à peu près 56 millions d'années. Il s'agit, selon eux, bel et bien d'un morceau de mâchoire d'un Teilhardina, donc cet ancêtre de l'homme, en fait de l'ancêtre du primate et éventuellement de l'homme. Et ce fossile est le plus ancien jamais découvert.
Mais là, ça vient bouleverser complètement la conception, par exemple, que les premiers humains, finalement, viennent d'Asie ou d'Afrique, etc., et que par la suite, ils ont transité par le détroit de Bering, puis ils sont répandus en Amérique.
Donc là,
si on a déjà l'ancêtre de l'humain au Wyoming, aux États-Unis.
Voilà, donc on a un petit mammifère qui est l'ancêtre des primates, qui sont, eux, l'ancêtre des humains. Et là, effectivement, tu le soulignes bien, ça brise un peu le moule que l'on avait de croire que ces animaux étaient apparus d'abord en Asie et en Chine pour ensuite donner naissance dans les plaines d'Afrique aux premiers hominidés. Alors, évidemment, on recule de 56 millions d'années. Donc, au niveau de l'échelle géologique, qu'est-ce qui reliait le continent asiatique au continent américain? Est-ce que le détroit de Bering existait? Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait des possibilités que des terres soient encore collées? Parce qu'il faut se rappeler qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, mais c'est peu vraisemblable parce qu'on parle ici de centaines de millions d'années, il y avait ces continents qui étaient pris tous ensemble, qu'on appelait la Pangée, et le mouvement des plaques tectoniques ont fait que les continents se sont éloignés les uns des autres. Mais cette vision géologique date de plusieurs centaines de millions d'années. Alors, comment expliquer la présence de ces petits mammifères en Amérique du Nord, alors qu'il n'y avait techniquement pas moyen pour eux d'aller coloniser d'autres régions du monde? Est-ce qu'ils se sont développés de manière séparée de leurs collègues, de leurs cousins asiatiques? Tout ça reste encore très mystérieux. mystérieux, mais c'est vrai que cette histoire de découverte d'une mâchoire de l'ancêtre des primates en Amérique du Nord est quelque chose qui est un peu un pavé dans la mare pour les gens, à tout le moins pour les livres d'histoire.
Mais quand on parle de découverte d'un fossile aussi âgé, là, 56 millions
d'années, ouais.
Évidemment, on n'a pas trouvé des os en tant que tels. On a trouvé la trace de ces os-là imprimés dans la roche?
Ce qui se produit lorsque les animaux meurent et vont se fossiliser, en fait, ils vont perdre tous leurs minéraux et ça devient un fossile. Donc, on a donc le fossile, donc un morceau de mâchoire déminéralisé qui est le morceau fossile. Donc, autrefois, ce morceau de fossile a été un os.
Ouais.
Et cet os était celui d'un de ces petits mammifères qui serait à l'origine, en fait, qui serait l'ancêtre des primates.
Un peu comme, par exemple, quand on se promène à des endroits où il y a des galets, où vous pouvez trouver des traces de coquillages sur les galets, par exemple.
Il y en a beaucoup ici, là. Les gens qui sont un peu observateurs, si vous allez, par exemple, sur les bords du fleuve Saint-Laurent et vous prenez des galets, ou encore si vous brisez certaines de ces roches, vous allez trouver à l'intérieur, notamment des roches stratifiées, vous allez trouver parfois des marques fossiles. Moi, j'ai à la maison, un ami à moi m'a donné un morceau de fossile trouvé justement au Québec, où on voit là, de très, très belles empreintes de trilobites. Hein, c'est en fait ce que l'on croit être les premières formes de vie complexes à avoir apparu sur la Terre et qui ressemblaient un peu à des crabes sans pinces. Là. Bon, c'est un peu à ça que ça ressemblait. Et effectivement, si on est un peu observateur, on peut trouver ici au Québec de magnifiques roches qui contiennent des traces de ces fossiles.
Voilà. Bon, parlons de Tunnel Boat. Qu'est-ce que c'est, Tunnel Boat? Tunnel Boat, peut-être?
Tunnel Boat.
Tunnel Boat.
Comme disent les Français, c'est un tunnel boat.
Voilà.
On le sait, depuis quelques années, la NASA a repris un peu du vent dans les voiles avec ses différents projets qui concernent la vie extraterrestre. Parce que bon, pour avoir le support du Congrès, pour avoir le support de la population, il faut trouver des projets qui sont un peu dynamiques auprès de la population. Et la NASA, avec son projet de station orbitale et l'émission lunaire, on le sait, ils avaient perdu un peu de leur panache. Et ce qu'ils faisaient intéressait moins les gens. Et puis là, voilà que depuis quelques années, ils ont mis un peu le mot extraterrestre dans leur discours. Et là, soudainement, ça intéresse les gens. Évidemment, on ne parle pas d'extraterrestres à bord de soucoupes volantes et des petits hommes verts, mais on parle de recherche de vie extraterrestre dans l'univers. Donc, écouter des étoiles, envoyer des signaux radio dans l'espace, essayer de signaler notre présence aux extraterrestres. On voit que ce sujet intéresse les gens. Et ce qui intéresse encore plus les gens, c'est la recherche de vie extraterrestre à l'intérieur même des limites de notre système solaire.
Ouais.
Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, Louis, on croyait qu'il n'y avait que de la vie sur Terre. Il n'y avait aucune place dans notre système solaire où il pouvait y avoir de la vie. Et aujourd'hui, grâce aux recherches menées par les sondes, on sait qu'il pourrait y avoir des formes de vie dans le sous-sol de Mars. On sait qu'il y a d'excellents candidates à travers le système solaire. On pense par exemple à une des lunes de Saturne, Encelade, qui crache littéralement des geysers d'eau chaude et qui prouve que sous sa glace, il y a un océan d'eau liquide, chaud, probablement salé, et qui aurait peut-être permis l'apparition de formes de vie. Et parmi ces candidats, celui qui se trouve le plus souvent dans le collimateur de la NASA, c'est une des lunes de la géante Jupiter, Europe ou Europa. On sait que c'est une lune qui est couverte de glace. On peut voir les photographies transmises par les sondes montrent d'ailleurs une surface craquelée qui montre que les glaces bougent. Donc, il y a un en dessous liquide qui permet ce mouvement. Et les chercheurs croient que cet océan liquide pourrait contenir des formes de vie et peut-être même des structures des animaux extraterrestres. Mais comment percer cette couche de glace? Et c'est vrai que l'idée est enivrante, mais il faut encore trouver le moyen technique de la réaliser.
Ouais.
Et on arrive à Tunnel Boat. Il y a quelques jours, la NASA, en fait c'est le Glenn Research Center, qui est un organisme tentaculaire de la NASA, a rendu public les premières, disons, planches à dessin du projet Tunnel Boat. Alors, ce projet, c'est d'envoyer sur Europe une sonde qui se poserait sur la surface de la glace, et ensuite, la sonde pourrait larguer un mécanisme forant qui pourrait traverser la glace pour se rendre jusque dans la surface, jusqu'à l'océan qui se trouve trouve sous la glace d'Europe.
Ouais.
Pour ce faire, la machine foreuse serait équipée de piles nucléaires qui à chaque embout auraient des espèces de, eux appellent ça des briques chauffantes. Ces briques chauffantes, donc, serait alimentée par l'énergie nucléaire, par l'énergie calorifique qu'elle dégagerait, elle creuserait, hein, un peu comme si on jette un tison ardent sur de la glace.
Et ça ferait fondre la glace, finalement.
Voilà, au fur et à mesure où la sonde va pénétrer l'intérieur de la glace, et éventuellement, lorsqu'elle va atteindre la surface liquide, elle va larguer un plus petit module qui, à ce moment-là, va se retrouver dans l'océan et avec des caméras, des systèmes télémétriques, pourrait transférer de l'information sur Terre pour nous expliquer, pour raconter ce qui se passe sous la glace d'Europe. Alors, évidemment, c'est excitant.
Évidemment, oui, mais on peut... Il y a toujours la question, si tu envoies ça comme ça, là, avec une sonde, comme tu dis, avec nucléaire, etc., il n'y a pas une possibilité de contaminer un espace qui ne l'est pas en ce moment, avec des technologies qui n'existent pas là-bas, évidemment, puis tout ça.
T'es donc bien rabat-joie ce matin, en ce début de 2019.
Mais non, mais c'est vrai. En plus, tu sais, on arrive avec nos gros sabots, ça va à une place qu'on connaît pas, puis on va larguer du nucléaire pour aller voir, juste pour le fun. Ah, on va aller voir ça. La vie là-bas, ben, on s'en sac, c'est mort, ben, mourons. Qu'est-ce que tu veux?
Louis, tu viens de mettre exactement le doigt sur le problème. En fait, déjà, avant même que le projet ne soit lancé, parce qu'on le sait, la NASA a annoncé des projets d'exploration d'Europe, notamment au début des années 2020. On parle de 2022 et 2023. La NASA compte envoyer des sondes vers Europe. Le projet Tunnel Bot ne fait pas partie de ces projets-là. Donc, on parle d'un projet encore plus tardif. Mais déjà, avant même que le projet soit en chantier, il y a une levée de bouclier parce que, il faut bien le dire, il y a eu des ententes qui ont été menées par la plupart des pays pour interdire l'utilisation de l'énergie nucléaire dans la propulsion des engins spatiaux. Alors, il faudrait d'abord contourner cette réglementation, faire une nouvelle règle et... Tu l'as très bien souligné, l'inquiétude que soulève l'utilisation de l'énergie nucléaire dans des milieux qui, pour l'instant, demeurent encore vierges de toute contamination. Alors, évidemment, ce n'est pas demain la veille où on va voir le projet Tunnel Bot voir le jour.
Mais tu vois, on peut faire un lien direct avec, tu sais, je me souviens plus l'endroit précis, là, l'île en Asie, là, où il y a une espèce de tribu, là, extrêmement...
L'île Sentinelle.
L'île Sentinelle, voilà. Où il y a un Américain qui a essayé d'aller les évangéliser, là, tu sais.
Ça a pas été de bonheur pour toi.
Il en est mort.
Exactement.
Et la crainte, c'était de dire, est-ce que le corps de ce gars-là, qui contient, évidemment, qu'il y a des anticorps, donc, mais qui est peut-être chargé de particules, de microbes, etc., va pas aller contaminer une tribu. Cette
population-là
qui est isolée complètement au milieu de l'océan Indien.
Absolument.
Qui n'est pas confronté à ça.
Et qui n'a aucun contact avec la civilisation depuis des milliers d'années. Là. Donc,
autre échelle, là, c'est un peu la même chose.
Voilà, c'est toujours un peu cette même problématique. C'est est-ce qu'on ne contaminera pas cet environnement-là?
Voilà.
Même la sonde, après avoir traversé le cosmos, lorsqu'elle va se poser sur Europe, rien ne prouve qu'elle ne transportera pas par des micro-météorites qui auraient pu frapper la surface de la sonde, elle-même transporter des rétrovirus qui pourraient mettre en contact avec ces formes de vie sous-marine qui vivent sous la glace d'Europe. C'est un grand débat. Je pense qu'à deux, à deux mots, on choisit le moindre. Mais c'est vrai que cette fascination que l'on a dans l'espoir de retrouver ou à tout le moins de détecter des formes de vie extraterrestre, c'est tout à fait fascinant.
On s'arrête un tout petit moment, Christian. On revient tout de suite après avec un autre sujet. On va parler de la planète X, entre autres choses. Restez là.
Drainville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Alors, on est toujours en compagnie de Christian Page pour les mythes et complots. Et là, Christian, tu veux nous parler de la planète X. Qu'est-ce que c'est, la planète X?
Un nom qu'on croirait presque sorti d'un mauvais film de science-fiction, la planète X. J'avais vu un film une fois...
Ou d'un autre genre de film dont on ne veut pas parler ici.
J'avais vu un film qui s'appelait Planète X, X, X.
Oui.
C'était tout à fait différent. mais ici, on parle de la planète X. Et c'est une rumeur qui est omniprésente dans le milieu de l'astronomie, je te dirais, depuis depuis à peu près un siècle. Quand on a commencé à observer, lorsqu'on a commencé à avoir des appareils d'optique qui nous permettaient de voir et de suivre la progression, le mouvement des planètes du système solaire, très rapidement, en faisant des calculs sur la mécanique céleste, en appliquant les règles de Newton et compagnie, on a quand même noté des petites anomalies dans cette mécanique céleste. Alors, on a supposé qu'il devait y avoir une autre planète qu'on ne voyait pas. Ouais. Et que cette planète devait exercer une certaine attraction sur les planètes visibles, ce qui aurait expliqué ces anomalies dans la mécanique céleste. Et quand, en 1930, Clyde Tobaugh découvre la planète Pluton, on se dit, voilà, c'était la fameuse planète X. Mais rapidement, on constate que la planète Pluton, qui n'est plus une planète maintenant, mais un planétoïde, que la planète...
C'est trop petit, c'est ça?
C'est trop petit.
Ouais.
La planète Pluton était beaucoup trop petite pour pouvoir exercer cette attraction qu'on supposait et expliquer ses anomalies dans la mécanique céleste. Alors, on s'est mis à supposer qu'il devait y exister une autre planète qu'on ne pouvait pas observer, mais qui se trouvait encore beaucoup plus loin. Il faut savoir qu'à la limite de notre système solaire, bien au-delà de la planète Pluton, il y a une espèce de couronne de débris qu'on appelle la ceinture de Kuiper.
Ouais.
Et les astrophysiciens croient qu'au-delà de la ceinture de Kuiper, il pourrait exister une autre planète, une planète géante, un peu comme la planète Jupiter, mais qui serait tellement éloignée du Soleil qu'elle mettrait quelque chose comme 15 000 ans à faire le tour du Soleil, et elle serait tellement éloignée du Soleil qu'elle ne reflèterait aucune lumière. Donc, c'est un corps noir dans l'espace noir, dans les ténèbres du cosmos.
Mais comment on fait pour la voir? Parce que les télescopes, habituellement, se fient à la lumière pour,
et voilà,
pour
parce
la voir.
Que déjà...
Mais il y a d'autres techniques aussi. Tu photographies certains secteurs de la voûte céleste.
Voilà.
Et puis, si à un moment donné, il y a des trucs qui disparaissent, mais tu dis, il doit y avoir quelque chose qui passe en avant.
Écoute,
ça peut-tu être ça?
Ça te tenterait pas d'animer une chronique Mété Complot l'an prochain, finalement, Louis? C'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens se disent, oui, mais comment une planète pourrait exister dans notre système solaire, alors qu'on sait qu'on a découvert des exoplanètes, on est à peu près à 3000 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour de d'autres systèmes, autour de d'autres étoiles. C'est un peu comme dire, hop, je ne vois pas la voiture qui est dans ma cour, mais je vois les voitures qui sont stationnées dans la cour des voisins.
Ouais.
Mais en fait, ce qui se passe, tu l'as très bien mentionné, lorsque les exoplanètes qu'on a découvertes, on les a découvertes en utilisant deux mécanismes. D'abord, une observation directe, c'est-à-dire que la planète reflète un peu la lumière de son soleil, même si c'est imperceptible à l'œil, des appareils de mesure très bien calibrés ont permis de déterminer ça. Dans un autre cas, lorsque la planète passe devant son soleil, elle obscurcit la surface, c'est un peu comme une éclipse. Donc, le soleil devient moins lumineux parce qu'une planète passe devant. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des exoplanètes. Mais si la planète ne reflète pas la lumière du soleil, et comme on est, nous, autour de notre propre soleil, difficile de voir ce qui pourrait éclipser la lumière de notre soleil, alors on se trouve un peu dans une situation, un no man's land, si je peux dire.
Ouais.
Et les scientifiques dont je parle, on fait exactement ce que tu as soulevé. Donc, ce sont des scientifiques, des astrophysiciens du télescope des îles Hawaï. Ils ont photographié pendant une semaine, sans interruption, une zone. D'abord, ils ont calculé à quel endroit devait se trouver cette planète, en calculant les mouvements, ces anomalies dont je t'ai parlé dans la mécanique céleste. Ils ont déterminé, bon, voilà, elle doit se trouver à peu près dans ce secteur-là pour exercer cette attraction. Et ils ont filmé pendant une semaine, sans interruption, cette partie du ciel. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont pu filmer sans interruption. Donc, il n'y a pas de nuages qui sont venus obscurcir leur vision parce qu'à ce moment-là, tu pourrais toujours dire la planète est passée pendant qu'il y avait des nuages. Mais là, on a une semaine, à peu près dans le secteur, 85% en fait, du secteur déterminé où cette planète pourrait se trouver. Et donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va regarder dans ces images s'il n'y a pas effectivement des étoiles qui disparaîtraient, prouvant qu'un objet obscurci vient faire écran à ces étoiles. Et si cet objet apparaît, on aura donc la preuve de l'existence de cette mystérieuse planète X.
C'est un peu quand vous avez le soleil dans les yeux, mettez votre main devant vos yeux. Là, on cache le soleil. Puis après ça, whoop, tu t'enlèves ta main, tu revois le soleil. C'est un peu ça. Là. La technique, c'est de déterminer si la planète qu'on ne voit pas vient cacher
des étoiles.
Des étoiles parce qu'elle passe devant, finalement.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais est-ce qu'on sait quel type de climat il pourrait y avoir là-dessus, parce que ça doit être froid en bébite, là, si c'est aussi loin que ça.
Froid en bébite, mais encore une fois, les scientifiques croient qu'il s'agit d'une planète dite jovienne, c'est-à-dire une grosse planète, une grosse boule de gaz, ouais, comme le sont les planètes Jupiter et Saturne, par exemple.
OK, fait que vous n'irez pas passer vos vacances de Noël là-bas.
Absolument pas. Ce qui est amusant, c'est que cette histoire de la planète X, si elle fait elle fait sensation dans les milieux de l'astronomie et de l'astrophysique, ouais, c'est une planète qui a également été récupérée par les amateurs d'extraterrestres.
Ah, bien sûr.
Parce que quand tu ne sais pas quelque chose, accuse les extraterrestres.
C'est toujours eux autres qui sont responsables.
Et on croit, dans le milieu des extraterrestres, on croit que cette planète X, on lui donne un nom, on lui donne le nom de Nibiru, en faisant référence à une mythologie des anciens Sumériens. Et les gens qui croient à la théorie des anciens astronautes, donc que des extraterrestres auraient entré en contact avec des anciennes civilisations.
Ils viendraient de là, finalement.
T'as tout compris, Louis.
Christian Page, merci beaucoup encore une fois.
Ça me fait plaisir.
Pour ces mystères et ces mythes qui vont nous faire...
fantasmer.
Fantasmer, voilà le terme. Bon, jusqu'à la semaine prochaine.
Salut, Louis.
Tu seras de retour. Salut, merci beaucoup, Christian Page. Eh bien, c'est tout pour nous aujourd'hui. Alors, on se reparle à compter de lundi pour une autre émission sans Bernard Drainville qui lui revient mercredi. Au revoir.